Bonsoir, Onde Noire, suite et fin. Alors déjà, je vais non pas appeler, mais dire, donner le titre et surtout la traduction du livre dont on a parlé dans la première partie, puisque je crois que j'avais complètement oublié de le faire. Donc, le titre du livre, c'est « À l'inattendu, les dieux livrent passage ». Sage, un titre un petit peu étonnant parce que sorti de la pièce « Médée ». L'auteur, Maureen O'Brien, chez HB Édition. C'est un livre qui est presque tout noir, un gros livre tout noir, et traduit, même si on a vu que Maureen O'Brien parlait bien français, il faut quand même le traduire dans l'anglais, donc une traduction de Lala Lenda, j'espère que je n'écorche tout cela pour la modique somme de 22 euros. Dans la précédente émission, nous avions beaucoup parlé de ce qu'on a appelé le polar, c'est-à-dire en phare polaire, c'est-à-dire en fait un livre policier qui nous arrivait des 5 pays scandinaves. Du coup, on a vraiment envie de continuer un petit peu, surtout que la partie qui nous manquait était certainement une des voies les plus intéressantes qui nous arrive du plus petit pays scandinave, c'est-à-dire de l'Islande. Donc je vais laisser Jacques nous parler. Je ne vais pas prononcer le nom, je vais même lui laisser dire le nom de cet écrivain islandais.
Eh ben, c'est Arnaldur Indridason, et donc est un écrivain islandais. Tu disais une voix, ben, c'est d'ailleurs son dernier roman s'appelle La Voix, justement. Donc l'Islande, c'est un tout petit pays qui fait 100 000 km², 300 000 habitants, dont plus de 100 000 sont à Reykjavik, la capitale. C'est à peu près bien, tous les romans se passent à Reykjavik, parce qu'après ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... il y a quelques petites villes quand même, il ne faut pas exagérer. Il y a aussi 400 000 moutons. Voilà. C'est un pays qui n'est indépendant que depuis le 17 juin 1944. Il était administré par la Norvège depuis un moment. Donc là, pendant la guerre, ils ont profité pour s'auto-déclarer indépendant. Arnaldur Indridason, donc, qui est voix principale du roman islandais.
Préciser en parlant de voix que Jacques a des petits problèmes de gorge en ce moment, donc le temps qu'il boive un petit peu d'eau, bien c'est de l'eau qu'il boit, on va le laisser reprendre sa voix.
Il est né en janvier 61, il a une formation d'historien et de journaliste, et ensuite il a surtout été scénariste freelance tout en commençant à écrire ses premiers polars, dont le premier en 97. Il en a écrit, mettant en scène donc ces trois personnages, enfin l'inspecteur, alors je vais essayer de dire les noms, et ce coup-ci c'est pas parce que j'ai mal à la gorge, Erlandur Svensson.
On n'est quand même pas très habitué aux noms islandais. Hein.
Et il a deux adjoints, le premier qui est un homme qui s'appelle Sigdur Oli, et une deuxième qui est une femme qui s'appelle Elinborg, et on ne connaît que son prénom, du moins dans les premiers romans.
Encore un petit coup de match.
Voilà, non, c'est surtout qu'en fait, les noms en Islande sont formés du nom du père, du prénom du père suivi du suffixe von, enfin, ou l'équivalent en tous les cas en islandais. Voilà, c'est un assez disparate. Erlandur, c'est le plus vieux, c'est le chef. C'est un homme assez conservateur, assez souvent de mauvaise humeur, divorcé. Sa femme dit des pires choses sur lui. Sa fille, dont l'âge évolue au tard du roman, mais est une junkie. En plus, à un des moments, elle se retrouve même enceinte de on ne sait pas trop qui. Son fils, il en parle quasiment jamais. Il s'habille toujours un peu n'importe comment. Son adjoint, lui, par contre, c'est tout le contraire. Il est beaucoup plus jeune. Il a une femme avec qui il vit. Impeccable. Il dit, en fait, c'est Arnaldur Indridason qui le décrit en disant qu'il est incroyablement pédant et terriblement ennuyeux. Et au dire de l'auteur, en plus, il est toujours en train de faire des mauvais jeux de mots, ce qui a le don d'irriter Erlandur, son chef. Et il y a heureusement une jeune femme, Elinborg, qui est discrète, qui met un petit peu de fraîcheur dans ses enquêtes. Et en plus, sa vision, peut-être sa vision féminine en tous les cas, donne à l'enquête un virage qui la remet dans la bonne direction. Souvent, alors que les deux autres avaient tendance à partir pas forcément où il fallait. C'est un homme qui a beaucoup de succès en Islande, en tous les cas, parce qu'entre 2004 et 2005, il y avait 7 de ses livres dans les 10 meilleures ventes.
Peut-être que les moutons lisent là-bas. Hein.
Peut-être que les moutons lisent aussi, voilà. Donc, ces trois romans sont souvent assez sombres. Bien qu'il semblerait que l'Islande, a priori pour les gens, soit un pays où il ne se passe pas grand-chose et où, comme le dit en général le flic lui-même, les meurtres là-bas sont bêtes et méchants, finalement pas tant que ça, puisqu'on se rend compte que au cours de tous les romans, finalement, il finit par enquêter sur des cas de viol, de femmes battues, de clonage ADN, d'incendie de terre, de suicide douteux, même aussi assez important pour l'Islande, bien pour nous ça nous paraît un peu bizarre. En Bretagne, peut-être pas, de quotas de pêche dépassés. Et c'est vrai que les quotas de pêche dépassés, ça a failli créer un incident plus que diplomatique entre l'Islande et l'Angleterre. Donc en France, trois romans qui sont parus aux éditions Métayer, tout d'abord. Et ensuite, les deux premiers ont été réédités dans la collection Point Seul. Donc les titres, La Cité des Jarres, qui est le premier. Donc celui-là aussi, celui-là est donc réédité en Point Seuil. Il a même tiré un film qui est pourtant pour l'instant pas encore attribué chez nous, mais on espère.
Ils doivent chercher la poste.
La poste synchro peut-être, ouais. Voilà. Le deuxième qui est La Femme en Vert, donc qui raconte une histoire assez terrible de femme battue que l'on retrouve 45 ans après en fait enterrée. Donc l'enquête est passée dans le présent. Un petit peu dans le premier aussi, mais c'est net. Et dans le troisième, qui s'appelle La Voix, ça se passe. Alors là, il y a le Père Noël d'un. C'est dans de Noël. Donc le Père Noël a été retrouvé mort dans le petit KGB dans lequel il vivait. Mort avec le pantalon baissé et une capote sur l'endroit où elle doit être de son usage.
Je rassure les enfants qui écouteraient les émissions, bon, le Père Noël n'est pas mort.
Voilà.
Il revient
voilà,
dans 10
il
mois.
N'est pas une ordure non plus, mais là justement...
Il n'a pas de capote non plus.
Voilà, et là on se demande bien qui a pu tuer ce Père Noël. Le monde avait l'air d'aimer bien, ou plutôt d'ignorer complètement. Et on se rend compte assez vite que cet homme dans le passé a été un de ces chanteurs un peu qu'on monte en truc, un peu comme... Vous vous rappelez peut-être José Lito, pour ceux qui sont les plus anciens de nous, c'est les petits jeunes qui ont une voix, puis après qui disparaissent, évidemment, à la mutation,
oui.
La voix devient quelconque. Voilà, donc c'est vraiment, à mon avis, c'est un de ceux qui a dont les romans ont le plus de force, avec peut-être John Nesbo aussi.
John Nesbo dont tu nous as parlé, voilà. Et on rappelle que Rouge-Gorge vient de sortir.
Voilà, donc j'avais peut-être dit, mais là, il est effectivement en librairie, donc Rouge-Gorge, le troisième des romans de John Nesbo, est paru donc, dans la collection Folio Policier, par contre, ce coup-ci. Donc je rappelle Arnel Dur, Indri Dasson, chez Métayer, La Voix, le dernier, et ensuite La Cité Jarre et La Femme en Vert, chez Métayer, ou en réédition, en Point Seuil.
Alors on va peut-être écouter un petit peu de musique avant de parler d'autres romans polaires.
Voilà, donc le groupe s'appelle les Marvelous Big Noise, c'est un groupe de Montpellier, enfin ou de ses environs, qui font du blues en français, et enfin un genre de blues en tous les cas, en français et en anglais. Et ce morceau, il explique assez bien d'ailleurs, ça s'appelle « J'avoue, ça me donne du mal ». Thank you.
sont un peu grippés, les poris mouillés. Et pour pouvoir tout débloquer, j'avoue que ça me donne du mal. Pour les mots doux, je suis démodé. Pour certains, démodé. Pour certains mots, je suis maudit. De mots d'esprit en mots de thé, ça finit par me chauffer. C'est mon commentaire en chialé. Je sens que je vais tout faire baisser. Tous les septembre, c'est tombé. Et au moment où j'abandonne, la muse débarque et je fais redonne. Je l'ai enfin trouvé.
Les Marvelous Pig Noise, quel drôle de nom, enfin c'était plutôt sympa. Donc un roman, là, suédois, qui est une réédition, et c'est intéressant parce que c'est un roman qui coûte 7 €, donc c'est une bonne occasion, pas chère, de découvrir des auteurs qu'on ne connaît pas. Donc c'est chez la collection Point Seuil. Karine Alvtegen, un roman qui s'appelle Trahi œuf. Donc, suédois, point de départ, Eva, mariée, fils de 6 enfants, bourgeoisie moyenne, une belle. Elle découvre que son mari la trompe et veut la quitter.
Oh, il est vilain.
Pire, la femme dont il est amoureux, c'est l'instinct de ses gosses. Alors ça pourrait peut-être pardonner cette trahison, mais le fait qu'il a été chercher la maîtresse de ses propres enfants, enfin l'instinct de ses propres enfants, c'est quelque chose qu'elle peut supporter et elle décide de concocter une vengeance totalement odieuse pour se débarrasser de sa rivale. Donc elle commence aussi par rendre l'appareil à Henrik, son compagnon, en couchant avec Jonas, un inconnu rencontré dans un bar. Sauf que Jonas, qui va l'être aimé, Anna, mystérieusement à la suite d'un long coma, semble tomber éperdument amoureux de cette rencontre, amoureux de cette Eva. Et il est prêt, du coup, à tout faire pour la conquérir et surtout lui faire quitter Henrik, trompe Eva. Un trio et un jeu de dupes s'instaure alors entre ces trois personnages, tous trois persuadés qu'ils suivent la voie de la vérité, même si en fait, ce qu'à leur volonté égoïste de pouvoir et de conquête d'autrui. C'est un roman vraiment très très bien construit, qui revisite le thème un peu écrit du trio infernal, mais comme je l'ai dit, qui est un petit peu original. Chacun des personnages semble à la fois bourreau et victime, bien malin le lecteur qui pourra, en toute sérénité, décider du bien et du mal dans cette affaire, des bons et des méchants. D'emblée d'ailleurs, la situation choisie par l'auteur Karine nous met dans l'ambiance. Il n'existe ni châtiment, ni récompense, uniquement des conséquences logiques. Alors, je rappelle, donc, Trahi, tous les romans de Karin Hagen sont des participes passés, en fait, des adjectifs. Il y a recherché, honteuse et donc trahi. Et c'est un roman qui est traduit du suédois par Maurice Etienne. Et nous allons finir cette émission toujours dans le Grand Nord.
Grand Nord, on change de pays, on va en Norvège. Avec un homme qui s'appelle un monsieur qui s'appelle on va essayer de Kjell Oladal.
Donc, ça ne veut pas dire qu'il a fa.
Non, pas du tout. Ça s'écrit donc K-J-E, plus loin Ola, et le nom donc A-L. Non, D-A-H-L, voilà. Le roman s'appelle L'homme dans la vitrine. Il est paru à la série noire. Nous sommes à Oslo. Et Reidar Jesper, antiquaire, un vieil antiquaire de 70 ans. Un matin, il suit sa femme, de 20 ans plus jeune, jusque chez son amant. L'amant de la femme, donc. Et il attend patiemment dans un bar en face, en buvant du café et en lisant le journal. Puis, il rejoint son frère, pour une affaire qui finit rapidement, car il est de mauvaise humeur, et il fait capoter l'affaire, justement. Le lendemain, on retrouve l'antiquaire, mort, nu, dans la vitrine de son magasin. Et donc, le commissaire...
dont on ne reprononcera pas plus le nom jusqu'à la fin de
voilà,
l'émission.
Voilà, Gunnar Standa, ça fait presque... Voilà. Va mener l'enquête avec son inspecteur Frank Frolich. Ça, les noms, ils sont à peu près faciles, là. Ils ont de nombreux suspects, les frères dépités, que la mauvaise humeur donc, avait fait capiter la bonne affaire parce qu'ils voulaient revendre le magasin. Il y a son fils, qui était tenu un peu pour une quantité négligeable parce que lui, ce qu'il voulait faire, c'était écrivain. Il y a la femme.
C'est vraiment honteux de vouloir être écrivain.
Voilà. Il y a la femme, évidemment, qui l'a trompé. Et puis aussi, donc, l'amant. En fait, en gros, quand ils se mettent à enquêter, ils trouvent qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui pas bien cet homme. Et ils n'ont pas grand-chose non plus comme indice de départ. Ils ont une série de chiffres tracés au feutre sur le corps du mort. Quels objets qui ont été volés, casins, dont on ne sait pas au début exactement lesquels. Il faut faire un inventaire. Et donc, voilà, les deux flics vont mener cette enquête pendant près de 430 pages. Ils trouveront quasiment personne pour regretter cet homme. Et ils vont finir par remonter doucement dans le passé de l'antiquaire, de Reidar, qui semble s'être bien comporté pendant la guerre, vu que c'était un résistant. Et finalement, en enquêtant, son statut de héros va un petit peu être légèrement abîmé. Voilà. Oladal, donc l'auteur, a été longtemps prof, mais il écrit son deuxième roman qui paraît. Le premier s'appelait 96 degrés. Il était paru aussi à la série noire dans la collection moyen format. Là, c'était carrément un road movie en pays trafic de marchandises. 96 degrés, je pense que c'était le degré d'alcool, puisque là-bas, c'est le double. Hein.
C'est le double.
Voilà, et là, il change de style en faisant un roman criminel des plus classiques. On pourrait presque se rapprocher certains Mankell avec Wallander, bien qu'il ait un peu moins de, je trouve, un petit moins de charisme que Wallander. Par contre, je trouve que ce qui est très bien dans ce type de roman, c'est l'arc du détail pour accrocher le lecteur qui met l'ambiance. Pour nous Norvégiens, ils se disputent autour d'un repas, d'un rôti de renne. Voilà, ça nous arrive pas souvent. Ou alors les traces qui laissent des pas dans la neige.
Voilà, l'homme dans la vitrine, là, on a fini l'émission. Merci, au revoir. Agora nous donne l'heure. Agora nous donne...